France Culture.
Tout par-delà d'un espace de 2000 hectares situé le long du Rhône au sud de Lyon, auquel a été donné le nom de Vallée et où se concentrent les activités chimiques d'une région qui en compte beaucoup par ailleurs. L'Auvergne-Rhône-Alpes a en effet vu se développer des pôles, des plateformes où se regroupent toutes les activités liées de près ou de loin à la chimie et donc les unes aux autres. C'est ainsi que lorsque le site de Jarry, de l'entreprise Arkema dans les environs de Grenoble, a annoncé le 21 janvier dernier envisager la suppression de 154 de ses 344 emplois. Forcément, les regards se tournent de l'Isère vers le Rhône et du Rhône vers l'Isère, car ce réseau minutieusement construit entre grands groupes et sous-traitants, entre production et recherche, et qui a fait la force de cette industrie, pourrait aussi être son talon d'Achille, et ce d'autant plus que l'avenir n'est pas rose pour le secteur de la chimie à Lyon, mais plus largement en France et en Europe, qui subit de plein fouet la concurrence chinoise, dans un contexte où la responsabilité de ses méthodes de production, dans la pollution notamment, via les fameux PFAS, est désormais largement identifié. Et c'est là tout le défi de cette fameuse vallée de la chimie, regroupée certes 500 entreprises sur 10 km de long, mais aussi 12 sites Céveso, soit le plus grand plan de prévention des risques technologiques de France. De lourds défis attendent donc encore une région marquée par un essor industriel savamment organisé par et pour le territoire. Territoire que nous arpentons jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Dalia. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui à distance, mais ils sont là quand même et c'est ce qui compte. Julien Lahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous avez aménagé et dirigé, vous êtes aménageur de profession, oui, vous avez dirigé à une époque la plateforme Vallée de la chimie entre 2018 et 2021. On va voir en quoi cette profession, ce rôle d'aménageur consiste. Anne Dalmasso, vous êtes quant à vous professeure d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes membre du laboratoire LARA, c'est-à-dire le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Bonjour et soyez la bienvenue, Anne Dalmasso.
Bonjour.
Julien Lahaye, une précision géographique s'impose pour bien comprendre quel territoire va être le nôtre, on va dire, pendant l'heure qui vient jusqu'à 15h. C'est à Jarry, dans l'Isère, donc, que se situe le fameux site d'Arkema qui a été touché par ces fameuses suppressions de postes que j'évoquais à l'instant. Or, Jarry se situe à 120 km de Lyon, c'est en grosso modo, on va dire, 1h30 en voiture à peu près. Le site n'appartient donc pas à ce qu'on appelle la vallée de la chimie à proprement parler. Est-ce qu'on peut dire tout de même qu'il appartient à cet écosystème régional de la chimie ?
Alors tout à fait, effectivement, même si Pont-de-Claix et Jarry sont deux communes de l'Isère dans la banlieue grenobloise, l'écosystème de la chimie en Auvergne-Rhône-Alpes est finalement composé de trois grands espaces reliés entre eux, on le verra tout à l'heure, à la fois par des utilités industrielles, mais aussi par des chaînes de partage de valeur entre des produits qui sont plutôt en amont et d'autres qui sont plutôt en aval dans la transformation de la chimie. Donc on a trois grandes plateformes, celle de Pont-de-Claix-Jarry effectivement à côté de Grenoble, la vallée de la chimie dont on a déjà un petit peu parlé, et puis une autre plateforme qui finalement entre les deux, qui est au sud de l'Isère et au sud de la vallée de la chimie, qui s'appelle Osiris, sur les communes de Roussillon et Salaise-sur-Sanne, à 20 km au sud de Lyon.
Donc on a ces trois grands pôles identifiés. Pour changer un tout petit peu de focale, Julien Lahaye, et pour bien comprendre aussi ce dont on va parler aujourd'hui, Arkema, ce fameux groupe, son siège social se situe à Paris, il compte 26 centres de production, mais eux pour le coup sont situés un peu partout en France. Il y a une sacrée concentration, il faut le dire, aussi dans le sud-ouest, à Lesgore, à Rion-des-Landes, à Lac, à Mont et à Lanneusement, mais aussi dans le nord, voilà, à Honfleur, à Châteauroux, à Saint-Ville, à Ribécourt. Voilà, tout autour de l'Île-de-France et puis dans le Nord-Nord. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que les sites du Sud-Est, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont une dimension particulière en termes de production et surtout de poids économique, Julien Lahaye ?
Alors tout à fait, effectivement. Déjà, il faut rappeler qu'Arkema est un des fleurons français de la chimie. C'est l'un des derniers grands groupes qui est encore sous pavillon français dans les grands chimistes européens. Et le groupe Arkema, effectivement, vous l'avez bien dit, dispose de plusieurs implantations en France, mais aussi dans le monde. C'est un groupe qui est présent à l'international. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes plus spécifiquement, il concentre à la fois des unités de production très importantes et sur Pont-de-Claix-Jarry et sur le site de Pierre-Bénite dans la vallée de la chimie. Mais il concentre aussi en Auvergne-Rhône-Alpes son principal centre centre de R&D mondial. On y reviendra, c'est très important, avec près de 500 chercheurs sur la commune de Pierre-Bénite, et aussi un site de fonctions support de niveau mondial avec les fonctions ressources humaines, informatiques, qui sont aussi dans notre région. Et c'est lié effectivement à l'histoire aussi de ce territoire Vallée de la Chimie et aussi à l'histoire du groupe Arkema du coup.
Et à la façon dont ce territoire a été organisé aussi tout au long de l'histoire, on va y revenir. Anne Dalmasso, on a bien compris, il y a certes cette vallée lyonnaise, on va dire, mais il y a toute la région Auvergne-Rhône-Alpes derrière, qui est bien la première région française exportatrice de produits chimiques, en tout cas entre 2023 et 2024, avec plus de 15 milliards d'euros d'exportation. C'est donc tout l'ensemble de ce territoire qui peut être considéré comme une économie tournée vers le secteur de la chimie. Dans quelle mesure Grenoble et ses environs, et le département de l'Isère de façon plus générale, prennent leur part finalement dans cette industrie chimique?
Bah, c'est vrai que l'image de Grenoble est moins spontanément associée à la chimie que à l'hydroélectricité, à ce qu'on appelait la houille blanche autrefois, ou aujourd'hui donc à la microélectronique. Mais néanmoins, effectivement, à la fois la chimie a joué un rôle très important et continue à le faire dans le développement industriel de Grenoble et son activité économique. Mais plus largement, les vallées alpines ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de la construction du secteur de la chimie. On pourrait même dire d'une certaine manière que ce qui attire l'attention de l'actualité aujourd'hui, avec à la fois l'affaire de Vencorex et puis les annonces d'Arkema toutes récentes, donc à la fois sur le site de Pont-de-Claix pour Vencorex et celui de Jarry là pour Arkema. Donc c'est deux sites, parce que c'est vrai que vu de loin ça fait une plateforme, mais vu d'un peu plus près c'est quand même deux sites qui sont certes liés, mais qui sont différents y compris par leur histoire. Donc ces deux sites relient d'une certaine manière toute l'histoire de l'électrochimie et l'électrométallurgie qui démarre dans les vallées alpines à la fin du 19e siècle et principalement dans la vallée de la Romanche. Et d'autre part, la vallée, une autre chimie d'une certaine manière qui vient de la région lyonnaise là proprement dite et qui va être à l'initiative du site de Pont-de-Claix, puisque le site de Pont-de-Claix est très vite la propriété d'une famille d'industriels très important dans la région lyonnaise, donc les Gilets qui vont fonder ensuite Progil, qui vont ensuite donner Rhône-Poulenc et qui illustre d'un point de vue à la fois de l'histoire des entreprises mais de l'histoire des capitaux aussi ce lien entre Lyon et Grenoble sur ce site-là, mais aussi donc le lien entre Grenoble et l'industrialisation des vallées alpines.
Et on va voir qu'effectivement, ce groupe, cette société Rhône-Poulenc qui va nous servir aussi un peu de fil rouge pour comprendre les évolutions de cette industrie de la chimie, à la fois en termes d'implantation territoriale, mais aussi de flux de capitaux. On va le voir dans une seconde partie. Ce qu'on comprend, Anne Dalmasso, dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a à la fois presque un phénomène d'expansion, on va dire, qui part du territoire plutôt lyonnais, et un phénomène proprement grenoblois ou en tout cas isérois où on voit émerger des entreprises, alors certes chimiques mais pas que, mais en tout cas industrielles de ce territoire-là. Anne Dalmasso, vous avez employé le mot qui va nous intéresser aussi pendant toute l'émission, ce mot de plateforme. On en compte 18 en France, 5 dans la région, dont celle, on l'a dit, de la vallée de la chimie et celle autour de Grenoble. Quel est ce concept de plateforme du point de vue de la géographie économique? Qu'est-ce que ce terme recouvre précisément, Anne Dalmasso?
Peut-être que enfin, mon collègue lyonnais
on va tout à fait l'interroger là-dessus.
Aura sûrement un autre point de vue et plus pointu que moi sur le fonctionnement. Mais en tout cas, c'est vrai que si on s'intéresse à l'histoire de la manière dont les activités industrielles se sont cristallisées sur certains territoires, ces plateformes chimiques sont effectivement quelque chose de très particulier parce que déjà visuellement, enfin toutes celles et tous ceux qui ont eu l'occasion de parcourir le long de ces sites où évidemment on ne pénètre pas en voiture notamment, on est sur quelque chose qui visuellement est très très frappant puisque ça fait partie de ces ensembles industriels qui sont d'une certaine manière hors mur parce qu'on voit une partie des installations. Donc visuellement c'est très marquant dans le paysage. Ce sont aussi des surfaces qui sont très importantes bien sûr et puis qui sont d'une très grande complexité, à la fois d'une grande complexité technique mais aussi au fil du temps, et c'est là qu'on va retrouver du lien avec les enjeux actuels, d'une très grande complexité dans leur fonctionnement en termes de répartition entre entreprises, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une seule plateforme qu'on a une seule entreprise, c'est même plus le cas du tout aujourd'hui. Et donc, on est face à des installations qui sont d'une grande complexité, donc à la fois technique et capitalistique. Et puis, on est aussi sur des installations, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, qui sont classées Céveso à des seuils plus ou moins hauts. Donc aussi sur l'illustration de cette présence de l'industrie avec l'ensemble des risques qui sont associés, que ce soit en termes de pollution, des eaux, de l'air, du sol, et évidemment de risques aussi.
Et de fait, il faut bien se comprendre aussi que ces plateformes-là ne sont pas extrêmement isolées. C'est aussi ce qui fait leur force. Elles sont relativement proches aussi des populations, ou en tout cas, elles en sont très très bien reliées via des infrastructures. Julien, là, et nous l'avons dit, vous avez été directeur de la plateforme Vallée de la Chimie. En quoi cela consiste-t-il très concrètement de diriger une plateforme? Et ce qui va nous expliquer de fait comment ces plateformes sont censées fonctionner, en tout cas comment elles sont conçues presque sur le papier.
Alors effectivement, ça a bien été rappelé, hein. Les plateformes, finalement, elles ont préexisté à l'époque, par exemple, de Rhône-Poulenc, hein, que vous avez cité tout à l'heure, à l'époque où finalement les grands sites chimiques en France étaient souvent composés d'un ou deux industriels majoritairement. C'était aussi le cas sur le bassin de Lac, hein, que vous avez cité dans le sud-ouest. Et puis, effectivement, à partir des années 80-90, avec la mondialisation d'une part, et puis aussi un certain nombre de cessions par l'État de participation qu'il avait dans de grands conglomérats de la chimie, on a vu apparaître des dizaines de sites sur effectivement une géographie assez limitée, avec un périmètre assez limité et qui effectivement a croisé aussi les périmètres de risques technologiques qui ont été indiqués tout à l'heure, puisque la France, rappelez-vous, notamment suite à l'accident d'AZF à Toulouse, a mis en place à la fin des années 90 une réglementation, à la fin des années 2000, une réglementation pour mettre en place des plans de prévention des risques technologiques. Et effectivement, le législateur, très concrètement, en juin 2013, a mis en place une circulaire plateforme qui a officialisé, vous avez raison, une gestion mutualisée finalement entre ces différents industriels et en lien souvent aussi avec les collectivités dans lesquelles ces industriels étaient implantés. Gestion mutualisée pour effectivement, à la fois du côté des services de l'État, avoir un nombre d'interlocuteurs limité, notamment au regard des enjeux en matière de risques technologiques et tous les enjeux d'organisation autour de la gestion des risques, hein, notamment. On peut penser par exemple aux exercices récurrents, les premiers mercredis du mois, les sirènes, la question des services de secours et d'incendie mutualisés, les médecins du travail, on est sur des sites aussi, ça a été dit, Céveso, donc à risque très important, qui peuvent être mutualisés. Et puis aussi, dans une logique, hein, c'est toute la particularité de ces plateformes françaises, de compétitivité de la chimie française, puisque au début des années 2010, déjà, la France se retrouvait, et plus globalement au-delà de la France, même l'Europe, hein, dans une tension très importante sur le coût de l'énergie et sur la compétitivité de la chimie française, qui restait à l'époque encore pour beaucoup une chimie, on va dire, de produits de masse, hein, et pas forcément une chimie que de spécialité, donc avec effectivement des cours qui étaient relativement bas. Et cette mise en tension a quelque part engendrer cette volonté de l'État et à l'époque notamment du ministère de l'économie de créer des grandes plateformes pour quelque part avoir des gains de compétitivité, notamment liés à cette mutualisation des services et des organisations.
Et là Julien, c'est extrêmement important. Ce qu'on comprend dans ce que vous venez de nous dire, c'est que c'est effectivement le ministère qui crée finalement, c'est un peu un modèle imposé du haut. Mais ce qui m'amène à une question, Julien Lahaye, quand on est directeur de plateforme, très concrètement, on est nommé par qui? Est-ce que cela relève d'un service de l'État ou est-ce que ce sont les entreprises qui se situent sur cette plateforme qui nomment un directeur? Comment ça fonctionne très concrètement?
Alors, chaque plateforme, effectivement, définit sa propre organisation. Donc, les différentes plateformes françaises ont des modes d'organisation et d'ailleurs, y compris des outils de portage juridique qui peuvent varier. Dans certains cas, ça peut être des groupements d'intérêts d'entreprise, des GIE. Ça peut être effectivement l'État qui crée un service ad hoc, notamment en lien avec les DREAL, hein, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et dans le cas lyonnais, et c'est aussi le cas, je crois, sur Grenoble, ce sont les industriels qui se sont plutôt tournés vers la collectivité, donc en l'occurrence la métropole de Lyon, qui s'appelait Le Grand Lyon à l'époque, avec le président Gérard Collomb dans les années 2000, et puis à Grenoble, vers Grenoble-Alpes-Métropole, hein, l'intercommunalité qui est devenue une métropole, pour qu'effectivement les collectivités endossent ce rôle de gestionnaire de la plateforme, et que finalement la collectivité, de par les outils dont elle disposait, qui sont à la fois des outils d'aménagement, donc aménagement des voiries, des réseaux, mais aussi les outils de développement économique, hein, il faut rappeler que les collectivités ont aussi un rôle très important à jouer en matière de développement économique endogène. chaîne hein, locale. Et dès lors, effectivement, les industriels, pour éviter aussi des effets de concurrence entre eux, parce le risque, effectivement, sur la vallée de la chimie, par exemple, hein, si je prends cet exemple, on a un industriel historique, hein, le groupe Total, qui a une raffinerie, donc qui est un site très important. Je suis pas certain que les autres industriels auraient facilement laissé la main à Total pour gérer la plateforme, alors même qu'on a d'autres grands pavillons industriels sur cette plateforme. Donc, dans les deux cas, c'est la collectivité qui a joué ce rôle d'ensemblier, avec une équipe à chaque fois. Ici à Lyon, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes, avec en gros trois orientations. Le premier, c'est de participer collectivement à continuer à développer ces plateformes en accueillant de nouvelles entreprises, là aussi dans une logique d'amélioration de la compétitivité des sites. Hein. Et justement, cette circulaire plateforme a rendu possible, hein, elle est d'ailleurs née en partie à Lyon, hein, même si c'est bien sûr le législateur qui a in fine pris cette décision. La circulaire plateforme, elle donne la capacité dans ces sites à risque, hein, ça peut paraître étrange, mais finalement dans ces sites où les risques sont les plus importants, les sites Céveso, d'accueillir des co-acteurs, c'est-à-dire de venir plugger à l'intérieur des sites industriels eux-mêmes
leur propre unité de production.
Ouais, voire de nouvelles unités de tiers acteurs, c'est-à-dire d'autres entreprises qui vont mutualiser le poste de garde, le restaurant, le médecin, et donc vraiment dans une logique d'amélioration de la compétitivité.
Et donc Julien Lahaye, pour boucler la boucle et pour être sûr de bien comprendre de quel point de vue vous nous parlez, lorsque vous étiez directeur finalement de cette plateforme Vallée de la Chimie à Lyon, vous étiez un salarié, un employé de la collectivité.
Tout à fait, exactement. Voilà, très clair. Et l'ensemble des agents étaient des agents de la collectivité.
Très bien. Ça mérite d'être clair et de nous indiquer aussi qui manœuvre aussi au sein de ces plateformes et quel dialogue il peut y avoir entre les différents types d'intérêts. Julien Lahaye, la plateforme chimique de Jarry, alors là, on n'est plus dans la vallée de la chimie, on l'a dit, fait environ 90 hectares. Alors j'ai lu, mais là, je parle sous votre contrôle, quelle était la propriété du groupe Arkema et qu'elle regroupait 340 salariés dans la métropole Grenoble. Et que d'autres entreprises sont également présentes, Framatome, Air Liquide, Engie, Cofeli et RSA, mais toutes ces entreprises-là ne sont que gestionnaires, donc il y aurait l'idée d'un propriétaire de la plateforme et des gestionnaires à côté, ça veut dire quoi que ces gestionnaires payent une sorte de loyer, comment s'organise finalement la présence dans ces plateformes-là?
C'est exactement ça, puisqu'en fait, il faut comprendre que les questions d'héritage historique, et ma collègue pourra compléter, notamment liées bien sûr aux passifs environnementaux, hein, notamment les pollutions des sols. Vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple des PFAS, mais il y a beaucoup d'autres pollutions historiques, puisqu'on parle de plateformes qui sont là quand même depuis le milieu du 19e siècle. Et du coup, il est très difficile pour le propriétaire exploitant, même dans certains cas, il n'est plus exploitant, le groupe n'existe plus, mais en général, il y a toujours une entité juridique qui reste propriétaire, parce qu'effectivement, la cession des terrains à d'autres acteurs, y compris à des entreprises qui viendraient s'installer sur ces terrains, nécessiterait une dépollution préalable avec des coûts qui sont bien évidemment prohibitifs. Dès lors, ce décret plateforme rend la possibilité effectivement d'avoir des sortes de loyers, des sortes de locations, d'amodiation. Donc un groupe comme Arkema ou comme Rodia qui est devenu Solvay dans la vallée de la chimie a la possibilité, parce qu'en général, les sites étaient très grands, ils faisaient 50, 80 hectares. Donc, ils ont la possibilité, effectivement, de louer une partie de ces terrains avec ce qu'on appelle une division en volume, hein, si vous voulez, d'un point de vue notarié. Et donc, la nouvelle entreprise qui s'implante n'est pas propriétaire du sous-sol, elle est même pas vraiment propriétaire du foncier, mais elle paye non pas tout à fait un loyer, mais effectivement, une offre complète qui comprend la mise à disposition du terrain et le partage d'un certain nombre d'utilités qu'on a commencé à évoquer. Ça peut être des utilités énergétiques, ça peut être des utilités servicielles, type, effectivement, médecin du travail, sécurité. Et dans tous les cas, c'est sous condition qu'un minimum de mutualisation soit mis en place. L'État autorisera cette location, cette mise à disposition, si et seulement si le nouvel acteur qui s'implante, par exemple chez Arkema, va bien mutualiser, par exemple, vous savez, tout ce qui est relatif à l'hygiène, à la santé et à l'environnement, qui est une compétence obligatoire en termes de mutualisation.
Anne Delmasso, vous employez dans un de vos articles un autre terme qui a de fait une autre définition, celui de district, et qui là, pour le coup, effectivement renvoie, comme le disait Julien Lahaye, à une dimension beaucoup plus historique, puisque c'est un terme qu'on retrouve pour qualifier ce qui se passe à Grenoble dès la première moitié du 19e siècle, d'ailleurs, ou le mi-temps du 19e siècle. On va évidemment commencer à comprendre comment tout cela s'est construit, puisqu'on comprend qu'il s'agit vraiment de construction d'une volonté, finalement, et pas forcément d'un phénomène naturel, mais justement pour faire la part entre ce qui relève du naturel, on va dire, entre guillemets, et ce qui relève d'une construction, on va dire, par l'homme et sa façon d'organiser caractériser le territoire. On a dit, hein, Lyon, Grenoble, voilà, la région entière est consacrée en partie à l'industrie chimique. Dans quelle mesure, Anne Dalmasso, est-ce lié, et surtout pour le cas de Grenoble, à la présence de certaines matières premières, à l'environnement tout simplement, qui fait que oui, on a décidé de s'implanter là initialement, au-delà des plans ou d'une forme de planification par l'homme?
Bon, c'est vrai qu'il y a des éléments qui peuvent être reliés à des éléments de, on va dire, de ressources naturelles. La principale, c'est l'eau et l'électricité qui en découle, donc l'hydroélectricité. En tout cas, pour la première phase, donc la phase de l'électrochimie, de l'électrométallurgie alpine, celle de la vallée de la Romanche, mais qu'on retrouve aussi en Maurienne, en Tarentaise, etc. Là, le lien est très net, puisque ces nouvelles fabrications électrochimiques, électrométallurgiques, elles sont extrêmement consommatrices d'électricité pour leur process même. Et à la fin du 19e et jusqu'à la guerre de 1914, l'électricité se transforme en mal. La nécessité d'avoir une production d'électricité à côté des productions électrochimiques ou électrométallurgiques est une nécessité qui est absolument impérative pour des raisons à la fois techniques et pour des raisons économiques. Donc il y a bien un lien là de ce point de vue-là. Après, sur le site de Jarry et de Pont-de-Claix, les choses sont un peu plus sont un peu moins évidentes, parce que ces deux plateformes, alors, vont s'engager dans la production d'électricité, les différentes entreprises chacune de leur manière, mais il y a d'autres éléments qui jouent évidemment. Pont-de-Claix, Jarry sont créés pendant la guerre de 14 pour les besoins de la défense nationale, notamment, on le sait, pour la fabrication des premiers gaz de combat. Et là, ce qui joue, c'est l'éloignement du front. Donc, c'est une autre logique. Mais il y en a d'autres aussi qui jouent. Et typiquement, les industriels grenoblois de l'époque, et notamment la famille Bouchaillet, qui a été une des grandes familles industrielles donc de Grenoble, qui était plutôt spécialisée là dans la grosse construction mécanique, et la chaudronnerie, sont des industriels qui sont très proches, par exemple, de quelqu'un qui s'appelait Louis Loucheur. Louis Loucheur, qui est un industriel, mais qui était aussi ministre de l'armement à cette époque-là. Et donc, l'attribution à Grenoble d'un certain nombre d'implantations liées à la défense nationale durant la guerre de 14, c'est aussi des affaires de réseau.
C'est pas tout à fait un hasard, effectivement.
Non, il n'y a jamais de hasard dans ces choses-là. Et le lien avec les Gilets et avec la région lyonnaise, c'est d'autres réseaux, là aussi, entrepreneuriaux, donc, qui se développent. Et puis, vous le disiez, ces sites sont aujourd'hui des sites qui sont insérés dans un tissu urbain, mais ce n'était pas le cas au départ, hein.
Oui, ce sont quand même
des sites qui se sont installés en périphérie de ce qui était à l'époque, notamment pour Grenoble en tout cas, encore une petite ville. Hein. Donc la disponibilité de vastes espaces plats, ce qui peut paraître un peu paradoxal dans une zone aussi marquée par l'espace montagnard, font aussi partie des éléments qui expliquent pourquoi on a de la chimie à cet endroit plutôt qu'à un autre.
Et ce qui nous permet aussi de comprendre, Julien Lahaye, s'il y a une forme de spécialisation, on va dire, de chaque plateforme en fonction potentiellement des ressources naturelles. Mais on sait que les sites grenoblois sont plutôt spécialisés en chimie minérale. D'ailleurs, ça a été beaucoup dit hein, avec Arkema que le site isérois ne produisait pas la même chose que le site lyonnais. Est-ce que ça vaut pour toutes les plateformes? Est-ce que chacun a sa spécialité? On parle de la chimie en général, mais il faut peut-être distinguer ce que c'est que cette chimie finalement, et qu'il y a des branches spécifiques à chaque site.
Alors oui, vous avez tout à fait raison. Chaque plateforme chimique en France, en Europe et même dans le monde est plus ou moins spécialisée. Alors la chance que l'on a effectivement en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a des plateformes tellement importantes, celle de la Vallée de la Chimie, celle de Grenoble et celle de Roussillon sur Salès, sur Sanne et la plateforme Osiris, pardon. On couvre finalement la totalité des champs. Mais chaque plateforme est plutôt spécialisée, effectivement. Alors je vais pas plutôt dire sur une typologie de la chimie, mais plutôt je vais qualifier de la chimie amont ou de la chimie aval, qu'on pourrait aussi qualifier de chimie de masse ou de chimie de spécialité. Effectivement, donc on a des très grands sites historiques sur les plateformes françaises, et c'est le cas sur Jarry ou sur la Vallée de la Chimie, qui sont des sites historiquement plutôt de production de masse, de grande quantité, effectivement plutôt issus de la chimie du minéral, hein. C'est le cas aussi jusqu'au début du XXe siècle dans la vallée de la Chimie, même si la Chimie est aussi née, vous l'avez dit, parce qu'il y avait la présence de l'Aune, on a le fleuve Rhône, et aussi parce qu'il y a toute une histoire industrielle autour de la soie à Lyon, et les soyeux qui ont d'abord dû quitter Lyon suite au décret notamment d'hygiénisme, se sont installés dans l'Est lyonnais, et les soyeux ont très vite eu besoin de colorants, et effectivement ils ont trouvé, avec la chimie minérale d'une part et la présence de l'eau d'autre part, l'opportunité sur des espaces plats, comme ça a été dit sur Pont-de-Clajary, de construire une sorte de grand site industriel, un peu rhizomatique, hein, pour paraphraser Gilles Deleuze, puisque là, effectivement, on a un écosystème autour d'un fleuve, qui a d'ailleurs dompté le fleuve, hein, historiquement, puisque le Rhône n'était pas encore aménagé, bien évidemment, au début du XXe siècle. Et les sites industriels sont venus, d'ailleurs, créer des premiers aménagements fluviaux autour de cet axe, à la fois, bien sûr, pour prélever l'eau nécessaire au process industriel, plutôt donc d'abord chimie minérale puis organique, et dans un deuxième temps aussi parce qu'on n'avait pas de réglementation environnementale pour rejeter les effluents en sortie de production, pour le coup.
Alors vous l'avez dit, comme souvent il faut remonter aux origines et au tout début de l'histoire industrielle pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, et puis aussi comment se sont tissés les liens entre Grenoble et Lyon d'un point de vue industriel, et comment chaque ville a vu la chimie prendre une certaine importance dans ce tissu industriel. Il nous faut donc remonter aux sources.
Depuis 523 ans exactement, le fil merveilleux tisse la légende de Lyon. Les étrangers pensent que l'existence de la ville ne tient qu'à ce fil.
Comme ils pensent que toute la cité ressemble un peu à ce très typique quartier de la soie, où les rues dessinent une trame si serrée et qu'on a parfois grand-peine à faire la navette de l'une à l'autre.
Les temps sont changés. Les gens et les choses aussi. Et les techniques.
Et la soierie elle-même, dont le nom couvre désormais toute l'industrie textile. Le soyeux est devenu chimiste, et la soie pure n'entre plus que pour 10% environ dans ses préoccupations commerciales.
Voilà un reportage dans le quartier de la soie à Lyon, un reportage tourné en novembre 1959 pour l'émission Dimanche en France. Julien Lahaye, vous nous l'avez dit, finalement cette industrie chimique qu'on a aujourd'hui, elle est l'héritière, elle se situe dans le sillage de cette reconversion, on va dire, mais tout par-delà de cette industrie de la soie, donc plutôt textile initialement. Est-ce qu'il y a tout de même une forme de cohabitation? Est-ce que, on l'entendait dans le reportage, il est dit que le chimiste remplace les soyeux, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lieu où cohabitaient les deux industries?
Alors, disons que les deux activités cohabitaient pas géographiquement vraiment au même endroit, mais comme ça a été indiqué tout à l'heure, si les industries chimiques se sont implantées le long du Rhône, c'était pas uniquement des espaces nus. Un certain nombre de ces espaces accueillaient déjà des activités, alors pas forcément en lien avec le textile, mais en tout cas des activités économiques. C'était aussi des espaces qui étaient encore le grenier de la ville de Lyon, donc aussi beaucoup des espaces agricoles, hein, de maraîchage. Et puis il y avait déjà, et surtout il y a eu beaucoup avec les premières usines, de construction de logements à proximité immédiate, parce qu'on était encore dans des logiques très paternalistes. Et au 19e siècle et au début du 20e siècle, et les industries chimiques qui se sont développées ont très vite finalement donné naissance à des communes, hein, notamment la commune de Saint-Fons, et puis aussi le développement de la commune de Pierre-Bénite et plus tardivement celle de Fézin, puisqu'effectivement les chimistes ont rendu nécessaire la construction de logements, d'écoles, d'équipements. Donc progressivement, c'est tout un écosystème entre les activités artisanales, industrielles qui étaient déjà en place et ces nouveaux sites chimiques qui s'est constitué effectivement au sud de Lyon, et je crois que c'est un petit peu la même chose sur Pont-de-Clajary.
Et puis Dalmasso, c'est aussi ce qu'il se passe finalement avec Grenoble. Vous le dites très bien, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est plutôt la ganterie, hein, qui est l'étendard de Grenoble. La ville est relativement petite, elle compte 27 000 habitants en 1840. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, tout s'accélère. Et tout s'accélère, là encore, avec les progrès de la technique, mais aussi de la chimie. Et on va reciter, et on va souvent le faire, l'industrie Rhône-Poulenc qui n'est pas encore, mais les frères Gillet qui, eux, vont tenter de développer la viscose, c'est-à-dire de la chimie, puisqu'il s'agit de fils de soie de soie artificielle. Anne Dalmasso, à Grenoble aussi, finalement, on se rend compte que l'industrie textile de la ganterie ne va pas forcément faire très long feu et qu'il faut prendre un autre tournant qui est potentiellement, entre autres, celui de la chimie.
Oui, bah d'ailleurs, la ganterie a aussi
cohabiter,
enfin, est aussi en lien avec des activités, alors qu'on appelait peut-être pas forcément chimiques à cette époque-là, mais les questions de teinture, on les retrouve aussi. Et les grandes maisons de Gantry, à la fin de leur période, avaient employés des chimistes, et notamment des chimistes femmes, ce qui est une de ses particularités, mais parce que la chimie, finalement, on l'évoquait en démarrant, on la retrouve aussi partout. Peut-être qu'il faut distinguer les activités chimiques et puis la chimie en tant que telle, les industries chimiques, donc véritablement spécialisées. Mais disons que à Grenoble, après le grand cycle de la Gontrie, sont d'abord les industries métallurgiques qui ont pris la place, c'est-à-dire en fait des entreprises qui étaient au service du développement, par exemple, de l'hydroélectricité, mais aussi de la papeterie, qui a été une des grandes activités donc de la région, mais aussi de la cimenterie, qui a aussi été un secteur extrêmement important. Il y a toujours donc des installations très importantes, hein, notamment celle de Vica aujourd'hui. Donc, on assiste à une diversification industrielle dans laquelle la chimie arrive finalement relativement tard, mais avec des liens qu'on retrouve, par exemple sur le site de Brignoux, qu'on n'a pas évoqué, qui a été aussi un grand site chimique qui a été fermé en 2004, fermé par Arkema là aussi, qui était le grand groupe qu'il avait récupéré. Donc la chimie a fait partie de ces éléments de diversification. Mais j'ai souvenir d'avoir lu là dans des documents de planification des années 1960, là, qui était la grande période de la planification, où l'image ou l'association de l'image de Grenoble avec la microélectronique était encore pas encore la bonne période, et où la chimie apparaissait comme étant le grand secteur porteur d'avenir, et avec un argument qui peut nous laisser songeurs aujourd'hui, qui était que de leur point de vue à l'époque, l'industrie chimique n'était pas une industrie délocalisable. Et c'est vrai que avec le recul du temps, cette confiance dans la pérennité de ces installations, du fait de la lourdeur des investissements, de leur technicité,
la complexité
du lien
aussi, peut-être.
Oui, et puis du lien à l'innovation, hein, c'était aussi une période où on s'imaginait encore que les capacités d'innovation étaient une spécificité occidentale ou européenne, et bon, ce qui nous donne avec le recul du temps matière à réfléchir.
C'est sûr que avec ce recul-là, on peut se dire que bon, il est toujours compliqué de tirer. Enfin, il est plus facile de tirer des conclusions a posteriori qu'avant.
Certes.
Julien Lahaye, sur cette reconfiguration aussi, et là on arrive aussi à la toute fin du 19e siècle et advient évidemment la Première Guerre mondiale. Ça aussi, ça va être un tournant pour cette histoire de la chimie.
Alors tout à fait, effectivement, avant même d'entrer dans la phase de la pétrochimie, hein, ça a été évoqué plutôt avec l'État aménageur dans les années 60, on a toute la phase effectivement Première et Deuxième Guerre mondiale qui va finalement conforter ces implantations industrielles avec notamment les besoins de production de gaz pour l'armement et pour les deux guerres, mais aussi en lien avec les guerres, ça a aussi été des moments de progrès, ça peut être étonnant de le dire comme ça, ça renverrait un peu aux thèses de Pierre Charbonnier, puisque c'est aussi l'époque du développement des médicaments et la chimie a joué un rôle essentiel, et notamment la vallée de la chimie à Lyon, puisque les premières molécules d'aspirine sont nées sur la commune de Saint-Fons, et ça a été dit tout à l'heure par ma collègue grenobloise, ces usines de médicaments, notamment aussi parce que les hommes étaient partis faire la guerre, c'était des hommes qui employaient quasiment que des femmes, donc on avait des usines comme ça à Saint-Fons qui employaient jusqu'à 1200 femmes. Avec, on a des photos d'ailleurs, des pouponnières installées dans l'usine avec 50 berceaux à côté de l'atelier de fabrication des molécules et puis le conditionnement de ces médicaments. Donc c'est aussi une phase de progrès étonnamment très important. Et en tout cas pour la vallée de la chimie, entre les années, on va dire, 1910 et les années 1950, avant justement le développement de la pétrochimie, on y reviendra, c'est une phase de développement et de progrès. Et en tout cas, c'est effectivement perçu comme ça, y compris par les habitants et les citoyens.
Et Dalmasso, c'est extrêmement intéressant cette notion de progrès, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, et ce progrès-là, il est organisé, vous le dites, la Première Guerre mondiale marque une nouvelle étape, comme dans bien des domaines, elle a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de collaboration entre industriels, universitaires et pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Armement, dans la résolution de problèmes techniques cruciaux pour l'époque, en matière de production d'alliages spéciaux et de produits chimiques divers. Dès 1919, il y a un nouveau laboratoire, le laboratoire d'essais mécaniques et physiques des métaux chauds et ciments, qui est créé. En fait, tout ça, c'est, il y a déjà cette, un peu cette volonté qui vient du haut. On a parlé un peu en amont des années 60 et de la planification, mais il y a déjà cette idée de créer, et notamment à travers la recherche, une forme de modernisation, et en l'occurrence une modernisation de Grenoble. Il y a cette idée de faire de Grenoble un territoire à la pointe.
Oui, ça a été le projet d'une partie des élites grenobloises, élites à la fois industrielles, politiques, mais aussi effectivement scientifiques, dans ce qu'était l'Université de Grenoble à l'époque et les toutes premières écoles d'ingénieurs. Donc c'est un, là on est dans le domaine effectivement de la construction d'une image d'un territoire d'une part, mais de la construction aussi de réseaux d'influence qui peuvent permettre du côté des politiques d'aller chercher des subventions, qui peuvent permettre du côté des industriels d'aller chercher des capitaux et au profit du développement d'une, à la fois d'une industrie ou d'industrie au pluriel et d'un premier réseau effectivement d'enseignement puis progressivement de recherche. Mais c'est vrai que la Première Guerre mondiale a joué un rôle très important hein, dans cette accélération de cette structuration, et notamment bien sûr dans le cas de la chimie où la mobilisation est aussi une mobilisation des laboratoires tout autant que des ateliers.
Donc on le voit, il y a tout un réseau qui se forme et qui pousse aussi pour que Grenoble devienne ce fameux, peut-être, c'était un peu prématuré, mais une sorte de territoire d'avenir, et cette idée d'en faire aussi une capitale des Alpes, et notamment face à Lyon. On s'interrogeait sur les liens entre Grenoble et Lyon. Il y a peut-être aussi une forme de compétition qui a poussé Grenoble, et notamment c'est notable, cette sorte d'élite à améliorer cette image. Julien Lahaye, on a parlé de la Première Guerre mondiale, la Seconde aussi joue un rôle, et la reconstruction aussi, le rôle de l'État, une forme de planification. Pourquoi la vallée de la chimie à Lyon fait l'objet, de fait, dans les années 50-60, d'investissements spécifiques de la part de l'État, et notamment en termes d'infrastructures? On se dit qu'on a besoin de ce pôle-là à cet endroit-là?
Tout à fait. Il faut se rappeler que après-guerre, avec effectivement le ministère de la Reconstruction, hein, sous l'égide du ministre Eugène Claudius-Petit, qui était d'ailleurs originaire de la région, puisque c'était l'ancien maire de Firminy dans la banlieue de Saint-Étienne, il y a une volonté de l'État, de créer à la fois, vous savez, les grandes zones industrielles portuaires, donc autour de l'étang de Berre, autour de Fos-Marseille, à Dunkerque, à Port-Jérôme en Normandie, mais aussi une nécessité un peu géostratégique de la part de l'État aménageur d'avoir dans l'interland français, et donc sur le sol grand fleuve finalement qui n'a pas un grand port immédiatement accessible, d'avoir au sud de Lyon une grande plateforme qui va à la fois prendre la consistance d'une raffinerie, avec la création de la raffinerie à l'époque Elf de Fézin, et puis le développement effectivement entre 1960 et 1969, donc en 9 ans seulement, hein, et là c'est vraiment l'État qui était à la manœuvre, non seulement de cette raffinerie, de plusieurs grands sites industriels autour de la raffinerie qui lui sont connectés avec un système de pipeline, hein, mais aussi de l'autoroute du soleil, hein, l'autoroute A7 hein, de Lyon à Marseille, qui ensuite a été prolongée jusqu'à Paris, et du canal de navigation du Rhône. Et l'ensemble de ces travaux d'infrastructure, imaginez si on devait les faire aujourd'hui, ont été réalisés en 9 ans seulement, et ont donné naissance effectivement à cette très grande plateforme interconnectée à la fois bien sûr à Lyon et puis au reste de la France, et très fortement interconnectée non seulement à l'étang de Berre, à Fos-sur-Mer avec le fleuve Rhône et un système de pipeline, et relié aussi à la plateforme de Pont-de-Clajary et aux plateformes qui sont situées sur la vallée du Rhône. C'est aussi la période à laquelle on va commencer à développer les centrales nucléaires, parce qu'on va aussi avoir déjà des besoins d'électrification plus importants. C'est aussi la période où progressivement, tout doucement, on va commencer à sortir tout doucement du charbon, et où le gaz notamment va prendre le relais, parce qu'on est dans la grande époque de la pétrochimie, donc on est passé de la chimie minérale un peu organique, la chimie des gaz dans les deux guerres, à cette pétrochimie qui était source de progrès, là encore à l'époque, hein, liée à l'implantation des raffineries en France.
Mais de fait, cette pétrochimie reste tout de même dans le giron de la chimie de masse, ça reste la caractéristique de cette vallée de la chimie. Je fais un petit saut dans le temps, même un sacré saut dans le temps, Julien Lahaye. On a vu le rôle de cet État aménageur, comme vous l'avez dit. Pourtant, dans les années 80, on voit bien que cette chimie de masse qui va de pair avec cette vision-là aussi de ce à quoi peut servir la chimie pour la France, en fait. Cette vision-là, elle ne garde pas son monopole très longtemps. Et d'ailleurs, les années 80 sont celles de la privatisation, notamment de beaucoup d'entreprises qui étaient présentes sur ce territoire-là. Alors, on a un peu envie de se dire spontanément, Julien Lahaye, oui, les années 80 sont celles de la désindustrialisation, des difficultés dans ce secteur-là. On se doute que potentiellement la chimie n'est pas épargnée. Est-ce vraiment ce qui s'est passé ?
Alors, pas tant que ça finalement. Vous avez raison de souligner qu'à partir des années 80, alors d'une part avec les lois de décentralisation, l'État va progressivement transférer une grande partie de ses compétences aux collectivités, hein, et on se retrouve dans la situation un petit peu actuelle où, comme on l'a dit, c'est plutôt les collectivités qui jouent un peu ce rôle d'ensemblier d'une part. Et par ailleurs, vous avez raison, avec les privatisations, l'État va se désengager progressivement d'un certain nombre de grands conglomérats. On a cité Rhône Poulenc, mais on pourra en citer d'autres. Et en même temps, on n'a pas connu dans la chimie, et c'est aussi vrai sur Grenoble, je crois, que dans la vallée de la chimie à Lyon, de grands accidents industriels. C'est-à-dire, c'est pas comme la fermeture des mines dans le nord de la France ou la fermeture d'autres grands secteurs industriels avec la désindustrialisation, pardon, dans les années 80-90. La chimie a été relativement protégée et c'est peut-être même l'ADN d'ailleurs de ce qu'est la chimie en France, notamment parce qu'elle a su se réinventer déjà à partir des années 80-90 en se tournant plutôt vers la chimie de spécialité. On y reviendra. Une chimie peut-être à plus haute valeur ajoutée, hein, dans les molécules qu'elle a pu produire. Elle a su se diversifier. Et elle a notamment su très bien le faire en Auvergne-Rhône-Alpes parce que, et c'est la particularité peut-être de nos plateformes, nous concentrons à la fois beaucoup d'activités productives, donc des usines, hein, très concrètement, mais aussi de très grands centres de R&D, de recherche et développement. Dans la vallée de la chimie, on a 7 grands centres de recherche et développement industriel, donc qui appartiennent, hein, à des groupes de la chimie. C'est à peu près 3000 chercheurs. Avec Grenoble, je pense qu'on est parmi le plus grand pôle de publication scientifique en matière de chimie à l'échelle européenne, voire même mondiale. Et du coup, on avait la chance d'avoir dans ces centres de recherche, finalement, des capacités d'innovation qui ont permis à la chimie de continuer son développement, malgré effectivement une forme de désengagement à l'époque de l'État. Désengagement qui n'a pas été que dans la chimie par ailleurs.
Anne Dalmasso, c'est effectivement ce qui s'est aussi un peu passé à Grenoble. On pourrait se dire que le terrain était bien préparé avec tout ce qu'on a évoqué en termes d'initiatives prises pour renforcer les liens entre recherche et industrie, entre université et lieu de production. Est-ce que Grenoble était préparé aussi à ce tournant-là d'un point de vue technologique, scientifique ?
Probablement, mais je pense que il y a aussi d'autres éléments qui jouent. Là, on l'a évoqué. La structuration des entreprises joue un rôle qui est déterminant dans cette affaire. Hein. On l'a évoqué. On a d'abord une phase plutôt de concentration qui culmine dans ce secteur-là avec la création de Péchiné Eugène Kuhlmann, la PUK, donc en 71. C'est la phase de la construction de très grands groupes dans la perspective de la compétition européenne. C'était l'enjeu de cette époque-là et qui se sont pour la plupart fracassés avec la crise de 73 et suivante, d'où la nationalisation, puis ensuite la privatisation. Et là, la chimie grenobloise est prise dans ces effets-là aussi. Alors, c'est vrai que, en tout cas, il y a eu des fermetures. J'évoquais tout à l'heure le site de Brignoux, là, qui ferme en 2004, le site de Champagny aussi, qui était plus petit, mais qui ferme aussi en 2006. Il y a des pertes d'emplois. Le maximum est au milieu des années 70 dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'effondrement complet comme on l'a pu l'avoir. Il n'y a pas l'équivalent de la faillite de Creuse-Loire, quoi, par exemple, ou d'autres très grandes faillites. Après, la question de cette capacité de renouvellement, bien sûr qu'elle est déterminante, mais la question est de savoir à quelle échelle et à quel endroit elle est mise en œuvre. Les sites aujourd'hui font tous partie, et on l'a vu, divisés en selon leur spécialité technique, ils font tous partie de groupes qui sont des groupes mondialisés. Et la question, c'est dans ces groupes mondialisés, l'innovation, où est-ce qu'on la met en œuvre ? Est-ce qu'on la met en œuvre à Pontclay, à Jarry ou en Chine, quoi ?
Julien Lahaye, cette question de la mondialisation, elle est effectivement très importante. Aujourd'hui, on l'a dit, la vallée de la chimie, ce sont 2000 hectares, près de 500 entreprises. Sur ces 500 entreprises, combien sont 100% françaises, combien sont chinoises, par exemple ?
Alors c'est vrai que si on parle des grands groupes de la chimie qui sont encore présents, Madame Dalmasso a raison, beaucoup sont désormais passés sous pavillon étranger. Et finalement, Arkema, dont on a dit qu'il reste sous pavillon français, et le groupe Total, sont un peu des exceptions désormais. Alors même que, on l'a dit, hein, dans les années 60 aux années 90, on avait finalement que Rhône Poulenc et que Elf qui est devenu Total. Désormais, on a une dizaine de grands sites chimiques, y compris Seveso, sous pavillon étranger, principalement sous pavillon chinois, avec ChemChina, qui est le leader mondial de la chimie, qui dispose de plusieurs sites, à la fois Elkem Silicone, Adiceo, des grands sites Seveso de la vallée de la chimie, mais aussi sous pavillon belge, hein, puisque Solvay, alors qui est devenu Syensqo maintenant, est un groupe belge. On a aussi Domo Chemicals, hein, qui avait racheté les activités de Rhodia à Solvay à l'époque, et qui est aussi un groupe belge. Donc la difficulté, c'est que désormais, et ça a été dit par Madame Dalmasso, les centres de décision se sont déterritorialisés, si je peux le dire comme ça, et sont effectivement à l'étranger. Donc pour la collectivité qui joue ce rôle d'ensemblier de la plateforme, c'est extrêmement difficile, exactement. Puisqu'autant auparavant, les interlocuteurs étaient à la fois les directeurs de site, mais aussi quand on avait des grands élus, comme ça a pu être le cas à l'époque de Gérard Collomb ou de Bruno Bernard, le président actuel de la métropole de Lyon, ils pouvaient échanger avec les PDG des groupes assez facilement en France. Désormais, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'effectivement, comme ça a été dit, les centres de décision névralgiques sont à l'étranger, et la capacité des sites à conserver à la fois la R&D, la production, est souvent un peu mise en tension à l'échelle de ces grands groupes.
Et justement, cette question, elle revient en pleine lumière, hein, de fait, avec les récents événements, l'annonce de ces suppressions de postes, mais aussi ce qu'il a entraîné, et c'est à savoir les grandes difficultés devant Corex. Christophe Ferrari, le maire de Pont-de-Claix et président de la métropole de Grenoble, ou encore Séverine Dejoux, élu CGT chez Vencorex, appelle justement à une forme de nationalisation.
Ces deux électrolyseurs, celui de Jarry et celui de Pont-de-Claix, sont des bijoux technologiques de nouveauté. Ils ont coûté 80 millions d'euros d'argent public, État plus collectivité. Moi, ce que je ne peux pas accepter, parce que vous avez des vautours qui tournent aujourd'hui. Vous avez des vautours étrangers qui tournent et qui sont là en disant « Moi, je vais racheter cette technologie. Elle est belle, elle est bonne. Puis je vais attendre que tout ça se casse la figure. Comme ça, ça vaudra rien. » Ben ça, c'est non. On parle de 80 millions dans un processus de nationalisation qui en coûte entre 200 et 300. Il y a une vraie vision dogmatique par rapport au projet de nationalisation temporaire. Sérieusement, il n'est même pas venu sur le terrain. Donc ce que j'attends, c'est la venue ici du Premier ministre ou du ministre de l'Économie et des Finances. C'est ici qu'on va discuter de ça.
De notre sel, on produit les éponges de zirconium pour le refroidissement des réacteurs nucléaires en France. On produit le carburant de la fusée Ariane et le carburant des missiles de défense français. On produit un fluide qui sert dans les transformateurs électriques et dont on est le seul producteur en Europe. Hein, le concurrent, il est en Corée. Donc c'est des choses dont on a forcément besoin en France. Donc c'est des secteurs sur lesquels nous, on pense qu'on devrait avoir une souveraineté. Et c'est pour ça que Vencorex devrait être nationalisé. Pas simplement pour sauver les 450 emplois de Vencorex et les emploi induit derrière, mais surtout parce qu'en fait, on en a besoin.
Anne Dalmasso, Vencorex s'est fondée en 2002. En 2022, elle est détenue entièrement par son cofondateur historique, la compagnie thaïlandaise de pétrochimie PTT Global Chemical, qui a racheté ses parts au suédois Perstorp. Alors, dans quelle mesure, on le voit, cette internationalisation illustre ce que nous expliquait à l'instant Julien Lahaye, effectivement, une forme de décorrélation entre ce qu'apporte ce secteur-là, et en l'occurrence, l'élu CGT Séverine Dejoux parlait d'une forme de souveraineté aussi. Dans quelle mesure il y a un écart qui se creuse entre les cofondateurs, les actionnaires et effectivement le besoin presque territorial aussi, l'économie qui se crée autour de ces usines de production.
Oui, ben c'est vrai que la situation de Vencorex est assez illustrative, hein, de ces phénomènes-là. Si vous regardez la communication de Vencorex là sur leur site, à l'onglet historique du site, il remonte à 1916 et à la fondation d'une société qui à l'époque s'appelait le Chlore Liquide. Donc ce qui est une très très ancienne histoire par rapport aux enjeux qui sont les enjeux très très contemporains. Ce qui apparaît aussi, c'est que on a d'un côté des intérêts d'un industriel qui cherche à positionner ses activités au meilleur coût, au meilleur endroit et avec aussi le moins de contraintes environnementales et fiscales d'une part, et avec des intérêts donc qui sont assez clairs. Puis on a de l'autre côté ce qu'on évoquait aussi, donc ces enjeux qui sont territoriaux et qui sont désormais difficilement portés, ils le sont autant que possible par les élus locaux, on vient d'entendre ici Christophe Ferrari, avec le sentiment, en tout cas c'est comme ça qu'il l'exprime, que l'État est désormais aux abonnés absents sur ces problématiques-là. Et puis ce qu'on n'entend pas aussi, c'est les autres industriels qui sont aussi dépendants de ces réseaux-là. Et cette logique de plateforme, elle visait justement à permettre la permanence de ces interrelations. Donc on a un peu l'impression qu'on est sur des jeux où il n'y a qu'un seul acteur qui est en capacité d'agir en fonction de ses propres logiques et que les autres subissent sans s'en trouver de manière de faire entendre leur propre centre d'intérêt.
Julien Lahaye, c'est intéressant ce qui se passe avec Vancorex, parce qu'on a un peu l'impression, et c'est un peu ce que vous nous disiez, Anne Dalmasso, que finalement le piège de la plateformisation, le piège de ce regroupement géographique et de ce renforcement des liens d'interdépendance entre différents types d'entreprises de différentes tailles, ce piège-là, il s'est refermé finalement sur toutes ces entreprises à partir du moment où Vancorex ne pouvait plus fournir son sel, en tout cas c'est ce qui a été avancé comme raison de la suppression des postes, ne pouvait plus fournir son sel de fait à Arkema, s'en est suivi toute une série de décisions, et maintenant on s'attend à ce que les faits dominos se poursuivent sur les autres sous-traitants, les autres entreprises en lien avec Arkema. Est-ce que ce n'est pas finalement l'heure des regrets presque pour cette organisation géographique et économique ?
Alors, j'en suis pas certain, parce que de toute façon, si on n'avait pas collectivement l'État, les industriels, les collectivités favorisé cette plateformisation, cette mise en plateforme, sans doute que les accidents industriels qu'on connaît aujourd'hui seraient arrivés beaucoup plus tôt d'un point de vue économique, parce que c'est quand même ce qui a permis, dans un contexte du coût de l'énergie à l'échelle mondiale, qui est quand même sous tension très importante, de maintenir finalement, non pas simplement sous perfusion, mais de manière très dynamique, finalement, la chimie française. Vous avez raison de dire quand même que cette plateformisation, elle entraîne des effets domino, et que lorsqu'un site ferme un atelier ou ferme complètement une usine, en cascade, effectivement, on a des interdépendances très très fortes, et d'ailleurs, à l'échelle à minima régionale, hein, puisque ce qui se passe sur Pont-de-Clé-Jarry, ça a bien été dit par Madame Dalmasso, va avoir un impact, et a déjà un impact sur la vallée de la chimie à Lyon, mais inversement, si un site fermait dans la vallée de la chimie à Lyon, parce qu'il peut être situé en amont, notamment de la chaîne de valeur, il va impacter, exactement, y compris peut-être Fos-sur-Mer, donc il y a effectivement de très fortes interdépendances. Par contre, j'ai entendu les propos effectivement du président de la métropole de Grenoble, Monsieur Ferrari, ou de la déléguée de la CGT. Il est assez difficile malgré tout de dire que l'État ne fait rien, puisque l'État est quand même en soutien de ces filières stratégiques industrielles, l'État français. Il s'appuie notamment sur aussi les dispositions prises par l'Union européenne pour soutenir, vous savez, la souveraineté industrielle, la réindustrialisation aussi. Et j'en veux pour exemple, dans la chimie toujours, l'implantation d'une usine de paracétamol justement sur la plateforme Osiris, donc celle qui est située au sud de l'Isère, où l'État effectivement accompagne fortement. Et puis sur la vallée de la chimie, l'État a toujours été aussi au rendez-vous aux côtés de la collectivité pour accompagner les industriels. Toute la difficulté, on l'a bien dit, c'est que il est très difficile et pour les collectivités et pour l'État de se positionner vis-à-vis d'entreprises qui sont sous pavillon international. Quelquefois, l'entreprise va faire valoir que l'atelier n'est pas rentable à Pont-de-Clé ou à Jarry ou dans la vallée de la chimie, mais l'activité globalement à l'échelle mondiale, elle reste plutôt rentable et c'est aussi souvent des prétextes pour ces grands groupes pour rapatrier des activités ailleurs dans le monde sur des sites qui sont peut-être plus compétitifs à l'instant T et en grande partie du fait actuellement des coûts de l'énergie, hein. Si on est en Amérique du Nord avec le pétrole de schiste ou le gaz de schiste, ou si on est en Asie, c'est pas tout à fait le même contexte qu'en France ou qu'en Europe. Et effectivement, on risque d'avoir des années assez difficiles avec cette tension, d'une part, entre les impératifs du marché et notamment le coût de l'énergie, principalement. Les attentes citoyennes aussi, on l'a vu, on a parlé tout à l'heure des PFAS et tout ça. Il y a aussi une reterritorialisation à imaginer avec les industriels. Et puis aussi, l'urgence de la décarbonation, parce qu'on demande aussi aux industriels de faire des efforts par ailleurs sur la décarbonation. Donc c'est vrai que ça leur coûte aussi de l'argent. Et voilà, il faut réussir à mettre finalement autour de la table tous ces enjeux et construire des capacités de développement de ces sites malgré tout.
Julien Lahaye, on est passé un peu rapidement, notamment sur les questions de pollution par les PFAS qui constituent un angle saillant et particulièrement d'actualité aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la légitimité de l'accompagnement par l'État qu'on vient d'évoquer. Or, il faut le dire, la vallée de la chimie est particulièrement touchée par ce phénomène et elle touche aussi les habitants qui habitent à proximité du site. C'est ce que raconte notamment Stéphanie, qui est employée dans la vallée de la chimie sur France Culture. C'était un pied sur terre daté du 30 mai 2024.
Je m'appelle Stéphanie Escoffier, je suis habitante de Oulin-Pierre-Bénite depuis 20 ans. J'ai 46 ans. J'ai grandi dans l'Isère, à 50 km de là. Je suis revenue sur la région de Oulin-Pierre-Bénite pour travailler en tant que chimiste. Donc je ne sais pas exactement comment mon lait s'est retrouvé contaminé. C'est sûrement en partie pendant ma carrière professionnelle en tant que chimiste. Et en partie aussi parce que je vis près d'une plateforme industrielle. Donc nous avons la chance d'avoir un enfant en bonne santé. Par contre, on est inquiet sur le fait qu'il soit plus exposé à des substances nocives et sur l'impact que ça peut avoir sur sa santé future. On se pose la question de déménager à cause de cette pollution. On va dire la prise de conscience, ça a été les recommandations de ne plus consommer les œufs et la volaille dans les communes de Oulin-Pierre-Bénite et les communes limitrophes. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a énormément de gens, au final, qui vivent vraiment très près de cette usine. Et du coup, ça nous oblige à tous de remettre en cause notre choix de vie, quoi, d'avoir choisi cet endroit-là. En fait, on vit tous là, au cœur de la vallée de la chimie, du couloir de la chimie. On le savait, quoi. Au fond de nous, on le savait qu'il y aurait un scandale qui éclaterait sur une de ces entreprises.
Et de fait, le 15 janvier 2024, l'Agence régionale de santé estimait que les eaux destinées à la consommation de 166 000 habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes comportent des substances per- et polyfluoroalkylées, les fameux PFAS, les polluants éternels. Confrontée à la question, Arkema, en mai 2022, suite à un reportage de l'émission Envoyé spécial sur France 2, avait indiqué que l'utilisation des PFAS serait abandonnée d'ici à 2024. Julien Lahaye, est-ce le cas aujourd'hui ?
Alors, je vais pas parler à la place d'Arkema, hein, c'est leur responsabilité, mais je crois qu'effectivement c'est en cours. Il faut rappeler effectivement que ces PFAS, ils sont présents alors dans beaucoup de produits que l'on a dans nos maisons, hein, notamment tous les casseroles, les poêles, ce genre d'outils. Mais il faut aussi rappeler que on a une présence de PFAS liée à l'activité chimique et à tout cet héritage industriel dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne faut rien ignorer et rien occulter effectivement de ce passif environnemental dont j'ai déjà parlé, qui concerne les PFAS, mais sans doute malheureusement aussi beaucoup d'autres polluants sur ce territoire, puisque ça fait près de 150 ans qu'il a été exploité et en grande partie pendant au moins les 140 dernières années dans une logique un peu d'abondance totale et de liberté aussi donnée, parce qu'on n'avait pas forcément une réglementation environnementale stricte jusque dans les années 80-90.
Mais Julien Lahaye, ce qui est intéressant tout de même sur cette question, c'est que maintenant qu'on a identifié le risque, vous avez dit on sort de cette ère peut-être d'abondance où la conséquence n'était pas vraiment mesurée ou mesurable, on va dire. Se pose la question du pollueur-payeur, se pose la question des millions d'euros qui seraient nécessaires pour tenter soit de changer de modèle de production, soit tenter de dépolluer, même si on sait que c'est très compliqué pour les PFAS. Or, les collectivités, et notamment dans un contexte budgétaire réduit, ne peuvent pas aligner les millions, 15 millions d'euros pour un projet d'interconnexion avec les réseaux voisins qui consisterait à diluer, on va dire, les polluants pour redescendre en deçà des concentrations maximales. Tout ça, c'est de l'argent qui doit être mis sur la table et des procédures judiciaires, notamment à l'encontre de ces entreprises-là. Les collectivités, est-ce qu'elles font le poids finalement face à ces industries ?
En tout cas, il le faut, et je pense que les collectivités, l'État travaillent tous ensemble avec les industriels, hein, qui reconnaissent par ailleurs leur responsabilité, au moins en partie, j'imagine. Et il faut travailler une forme de réconciliation qui passe sans doute par imaginer demain des solutions. Vous l'avez dit, qui certes sont très coûteuses, mais il va falloir quand même réinventer des solutions. Et on a la capacité, comme on l'a dit, grâce aussi à l'écosystème, hein, de recherche et développement sur le territoire. Il faut que les industriels industriels qui ont été en responsabilité, même si depuis les groupes ont changé, sur ces pollutions, puissent participer activement à l'imagination, à la recherche des solutions de dépollution hein, avec des molécules. Je sais que plusieurs groupes travaillent là-dessus, et y compris au financement, vous avez tout à fait raison, des mesures qu'il va falloir mettre en place. Mais j'appelle ça, moi, des mesures de réconciliation, parce que c'est du « déjà là », entre guillemets, et malheureusement, il va falloir continuer vivre sur ce territoire.
Julien Lahaye, vous l'avez dit, il faut penser à vivre sur ce territoire et c'est très important pour une population qui vit maintenant depuis plusieurs décennies.
J'ai passé toute mon enfance ici. Ma maman travaillait à Saint-Gobain. Elle faisait la soupe pour les travailleurs qui étaient postés et qui étaient à l'intérieur de l'usine.
Notre balcon donnait sur les usines. Donc on avait une vue directe sur la raffinerie, sur la torchière de la raffinerie qui la nuit crachait beaucoup. Du coup, ma mère, quand elle lavait le linge dans la journée, des fois, il fallait qu'elle remette à la machine à laver le lendemain parce que le linge était noir.
J'avais 15 ans et j'avais demandé une boîte du petit chimiste. C'est comme ça que je découvre la chimie avec les colorants, avec un certain nombre de choses. Je fais des expériences de chimie, je fais des dégagements de chlore dans la maison. Ma mère rouspète quand elle rentre à midi. Ça sent les odeurs, comme elle disait.
Ça me fascinait quelque part. Ces immenses colonnes qu'on voit encore, pas très loin d'ici d'ailleurs, de pouvoir s'occuper de ça, de dimensionner ce genre d'appareil, de pouvoir éventuellement monter dessus.
Un extrait du documentaire « La vallée, la chimie et les hommes » d'Alix Morin qui est sorti en 2023 et qui témoigne d'un attachement aussi très fort d'une partie de la population à cette industrie qui s'inscrit dans le paysage depuis plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, ce que nous avons compris grâce à vous deux, Anne Dalmasso et Julien Lahaye. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'en profite pour remercier Frédéric Cabri qui a assuré le duplex depuis les studios d'ici à Grenoble et Chantal Nouvello qui assure la liaison depuis le studio Radio France à Lyon.